Alors, donc, pour compléter le duo de Philippe, il me fait plaisir de vous introduire le second co-animateur, notre second Philippe, notre Philippe Ouellette National, qui est actuellement externe à l'Université de Montréal. C'est moi qui ai la tâche colossale de vous présenter Dr. Labrecque en seulement deux lignes. Donc, Dr. Labrecque est diplômée en médecine sportive de l'Académie canadienne de médecine du sport et d'exercice. Elle pratique actuellement à la clinique de physiothérapie et de médecine du sport de l'Estrie. De plus, Dr. Labrecque est impliqué à l'Université de Sherbrooke comme professeur d'enseignement clinique à la faculté de médecine, en plus d'être médecin des équipes sportives du Verre et Or. Au cours de sa carrière, Dr. Labrecque a été membre de l'équipe médicale sur plusieurs compétitions sportives d'envergure internationale. J'en dis pas plus, j'ai l'impression qu'on va amplement en discuter au cours de la prochaine heure. Bon, j'en conviens, c'est un petit peu plus long que deux lignes, mais c'est vraiment le plus court que j'ai pu faire.
Merci Philippe. Docteur Labrecque, on se demandait, pour commencer, question brise-glace. Préférez-vous les Jeux olympiques d'été ou d'hiver?
Été.
Pourquoi?
J'ai fait seulement une fois les Jeux d'hiver, mais j'étais impliquée depuis des années dans des sports d'été. J'étais avec les équipes canadiennes d'athlétisme et les équipes canadiennes cyclistes. J'ai couvert surtout des sports d'été, à part le patinage de vitesse, là. J'ai fait les Jeux de Turin hiver. J'ai beaucoup aimé. J'ai appris plein de nouveaux sports que je ne connaissais pas, la luge, le bobsleigh, le skeleton. J'ai vu ça de proche, jamais j'embarquerai là-dessus. Mais c'est ça. Okay.
Excellent, merci beaucoup.
Super, super. Donc, Dr. Labrecque, pouvez-vous nous parler de votre parcours académique professionnel? En fait, plus précisément, qu'est-ce qui vous a mené vers la pratique de la médecine du sport?
Comme tous les médecins en médecine du sport, j'ai fait du sport moi-même. J'étais une joueuse de handball. J'ai un bac en éducation physique, puis une maîtrise en kin avant de mal tourner puis d'aller en médecine. Puis, c'est ça. Fait que là, quand j'étais allée en médecine, c'est sûr que mon intérêt pour la médecine du sport, j'ai découvert que ça existait parce qu'il y avait un médecin qui faisait de la clinique de médecine sportive à l'université, là, une demi ou une journée par semaine. Puis là, je trouvais ça évidemment très intéressant. Puis ça, pendant ma résidence, là, j'avais hésité, orthopédie, médecine de famille. Puis après une journée au bloc à faire des prothèses de hanche à 4 heures de la shot, j'ai décidé qu'orthopédie, c'était pas pour moi. Je suis allée en médecine sportive. Ça me permet de continuer à être proche du sport, là, puis c'est intéressant.
Puis, en fait, dans tout ce parcours-là, on se demandait à quel moment est venue la couverture d'événements sportifs ou vraiment les tu sais, est-ce que vous vous êtes impliqué durant vos études dans divers petits événements? Quand est-ce que ça a commencé tout ça?
Okay. Quand je faisais mon bac en éducation physique, il y avait un cours qui s'appelait traumatologie du sport. C'est un cours de 45 heures qu'on apprenait quand même pas mal la base. Puis on apprenait aussi à faire des tapings. J'avais un chum qui coachait au soccer des équipes, Midget 3, junior majeur, puis jusqu'à semi-pro, là. Puis là, je suivais les équipes, puis je faisais un petit peu de premiers soins là-dedans. Puis quand j'ai commencé, c'est sur mon cours de médecine, j'ai continué à en faire juste comme ça. Fait que le truc, c'est comme tout le monde, là. On s'implique localement, puis après ça, il y a des compétitions qui se rajoutent, puis des opportunités, puis ça grossit tranquillement, là.
OK, je comprends super. Puis, en fait, est-ce que dans le cursus même ou dans vraiment le moment où vous étiez en train d'étudier là, pour devenir médecin du sport, est-ce que vous étiez appelé justement à couvrir des événements un peu de cette façon-là?
La médecine du sport, moi je suis vieille, hein? La médecine du sport, ça n'existait pas tant comme entité là, quand j'ai commencé. Donner une idée, quand j'ai fini ma résidence, il y avait des fellowships au Canada, il y avait trois ou cinq postes là. T'sais, il y en avait deux, trois à l'Université d'Edmonton, puis deux ou trois à UBC. Puis c'est après avoir passé 10 ans à l'université, mon chum m'a toujours dit c'est parce que je comprenais pas vite là, mais moi je me disais que peut-être à embarquer pour un autre fellow là, c'était pas si tentant. Fait que j'avais décidé de le faire là, comme plusieurs de ma génération. Là, on suit les conférences, on apprend, on s'informe et on lit, puis tout ça. Fait que je l'ai fait en même temps. Là, quand j'étais résidente, mais avec le médecin qui faisait un peu de médecine sportive à l'université, il couvrait un petit peu, il y avait beaucoup d'athlétisme. Puis les sports universitaires qu'on couvrait. Il n'y a pas de football à Sherbrooke dans ce temps-là. Fait que j'ai commencé avec lui, puis ensuite, je me suis retrouvée rapidement avec les paras parce que un des profs que j'avais au bac en éducation physique était le président de l'Association canadienne de sport, comment ça s'appelait avant? Sport athlétique. La QMSE. Non, c'est pas vrai, c'est pas eux autres. C'est l'association, c'est la CWSA, c'est la Canadian Wheelchair Sports Association, l'association canadienne des sports en fauteuil roulant. Dans ce temps-là, ils étaient tous regroupés. Après, athlétisme en fauteuil roulant était allé avec Athlétisme Canada, basket avec Basket Canada. Mais c'est ça. Puis lui, il cherchait un médecin parce que il y avait quelqu'un qu'eux autres, mais il disait qu'elle connaît rien dans le sport, là. Puis là, moi, vu que j'avais fait un bac avec lui, une maîtrise aussi, il avait hâte d'avoir quelqu'un qui connaît le sport puis qui est médecin, là. Fait que je me suis rapidement trouvée impliquée avec l'équipe canadienne d'athlétisme en fauteuil roulant, puis ensuite de para-athlétisme en général.
De ce que j'en comprends, vous avez vous-même pavé un peu le chemin, vous avez vous-même finalement découvert et vous-même développé votre expertise. Là, c'était pas un chemin qui était tout tracé d'avance.
Vraiment pas, là. C'est ce qu'on appelle apprendre sur le tas, là, c'est ça. Et surtout que j'étais beaucoup avec les paras dans les équipes nationales au début. Et là, il y avait vraiment rien, 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 là. J'ai fait des championnats du monde à Birmingham, championnats du monde d'athlétisme, là, para-athlétisme. Et il n'y avait même pas d'équipe médicale sur place, là. Puis j'ai fait des championnats du monde où il y avait plus de stock dans ma trousse que dans la bâtisse médicale qu'il y avait là, là. Fait que t'apprends comme ça. Là, je trouve ça fantastique. Puis c'est pour ça que j'aime ça un peu coacher les plus jeunes qui viennent avec moi, les compétitions, leur dire bon, il y a ce qu'on voit, mais souvent ici, il y a des grands bouts qui se passent à rien, là. Fait que, expliquer qu'est-ce qui peut arriver, à quoi s'attendre, comment se préparer, là. Fait que, je me dis, vous n'êtes pas obligé de faire les erreurs que j'ai faites, là.
Super. Si on change un peu de registre, en fait, vous avez parlé du handball tout à l'heure. Est-ce que, bon, là, de ce qu'on comprend, vous avez évidemment toujours eu un intérêt pour le sport. Vous-même, à part le handball, est-ce que vous pratiquez, d'autres sports en particulier?
Ben, il y a tu sais, le basket pour les ligues de garage, puis le volleyball, il y en a, mais il n'y en a pas en handball. Il faut changer. Non, je fais beaucoup de vélo. Ça se limite pas mal à ça. Un peu de musculation, évidemment, là, mais c'est pas mal le vélo qui est ma grosse affaire là, depuis plusieurs années.
C'est pas les côtes qui
Définitivement.
manquent c'est pas les côtes qui manquent en Estrie.
Non, non, ça, je suis meilleur dans les côtes que sur le plat, d'ailleurs.
Définitivement plus accessible que le handball également, là, comme vous dites.
Oui.
Et puis, en fait, là, si on rentre un peu dans le vif du sujet, là, la première question, celle qui brûle les lèvres de tous, comment on fait pour être sélectionné sur l'équipe médicale aux Jeux olympiques?
OK. On peut pas commencer en haut, hein? C'est comme les athlètes, là. Si vous demandez à un athlète comment tu fais pour gagner une médaille aux Jeux olympiques, il faut que tu aies fait des compétitions régionales avant, là. Puis souvent, il y en a quelques-uns. Des fois, j'ai déjà été sur le comité de sélection pour les grands jeux là, à CASM, à l'Académie canadienne. Puis il y en a qui appliquaient pour les grands jeux. Puis il y a une liste, là. Si vous avez regardé les applications, qu'est-ce que vous avez fait au niveau régional, qu'est-ce que vous avez fait provincial, national. Puis il y en a que tout ça, c'est blanc. J'ai déjà vu là, quelqu'un qui a appliqué comme médecin-chef pour les Jeux paralympiques. Puis, il n'y avait rien là. Pas de local, pas de régional. Fait que la façon de commencer, c'est de se familiariser avec ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bénévolat là-dedans. Ça, c'est clair. Là, ça s'améliore avec le temps. Là, à l'Association canadienne, là, le comité des médecins d'équipe nationale, là, on a travaillé fort pendant de nombreuses années, mais on a l'impression que ça a recommencé. Mais c'est mieux que c'était. Dites-vous ça. Là. Il y a de l'espoir pour vous autres, là. Puis, C'est ça. Fait que c'est de commencer au niveau local, vous impliquer, offrir vos services. Jamais personne qui va refuser là, d'avoir un médecin ou un étudiant en médecine. Allez voir c'est quoi qui se passe. Puis, tu commences local. S'il y a des petites compétitions, les Jeux du Québec, ils cherchent toujours des médecins bénévoles. C'est une place pour commencer. Ensuite, il y a les Jeux du Canada. Si vous appliquez pour les grands Jeux, les Jeux qui sont considérés majeurs, là, c'est Olympique, Paralympique, Panam, puis, c'est quoi mon autre? Commonwealth. OK? Ceux-là, c'est considéré les Jeux majeurs. Fait que vous ayez fait des autres avant. Ils regardent toujours. Jeux du Canada, là, c'est toujours sa liste. Est-ce que les gens ont fait les Jeux du Canada? Parce que Jeux du Canada, c'est la première grosse expérience multisport où il y a beaucoup d'athlètes, il y a plusieurs sports. Bon, on commence pas dans du multisport d'habitude, à moins que ça donne comme ceux qui étaient à Sherbrooke en 2013, les Jeux étaient là. Fait que, t'sais, même si tu n'as pas fait les Jeux du Québec bien tant, là, okay, parce que c'est local, il faut profiter des occasions. Mais sinon, on commence avec un sport ou un autre sport, puis on apprend qu'est-ce qu'on peut développer là, qu'est-ce qu'il faut regarder, à quoi se préparer. Après ça, quand on a l'occasion des multisports, comme les Jeux du Québec, là, c'est une occasion. Après ça, c'est les Jeux du Canada. Les Jeux du Canada, c'est vraiment la porte d'entrée pour les autres Jeux. Moi, j'avais fait Kamloops. Non, j'avais fait Saskatoon avant. Puis, j'avais appliqué. Puis, je me rappelle très bien, après les Jeux de Saskatoon, j'avais appliqué pour les Panames à Cuba. En me disant, je vais appliquer, mais j'ai aucune chance. Ben, j'avais été sélectionnée. Okay. Fait que ça a commencé comme ça. Tu as fait tes Jeux du Canada, tu as pris de l'expérience, tu vas au Paname, tu prends un peu plus d'expérience, puis là, à un moment donné, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis plus tu vas avoir de l'expérience, plus tu as des chances d'être sélectionnée. Puis un avantage pour les Québécois, c'est qu'ils veulent toujours au moins un francophone sur l'équipe.
Ah, mais c'est bien.
Ça, c'est bon.
Tout à fait.
Il y en a plus à ce bout ici du pays qu'à l'autre bout.
Puis comme vous dites, là, ça s'apparente un peu au processus des athlètes aussi. Là. Donc, commencer ça avec des compétitions plus locales puis grimper. Mm-hmm. Bon, vous avez parlé de médecin-chef. En fait, ce qu'on voulait savoir, ce qu'on voulait éclaircir, c'est en quoi consistait votre rôle au JO, puis... c'est quoi les autres postes des médecins? Est-ce que certains autres médecins occupaient des rôles différents?
OK. Il y a tous les Jeux, il y a un médecin-chef. OK. Là, aux Olympiques, ils ont mis ça plus compliqué. Là. Le médecin-chef, c'était le CMO, qui était Chief Medical Officer. OK. Puis là, je ne sais plus en quelle année, là, Bob McCormick l'avait été une couple de fois, puis ils ont décidé que ça serait lui à l'avenir, comme pour tous les Jeux, mais plus pour l'aspect relation avec le CEO, pour tout ce qui se fait en dehors. Là, comme, ben là il a été remplacé, là, il a arrêté, il a pris sa retraite de tout ça avant les derniers Jeux. Puis c'est Mike Wilkinson qui s'est retrouvé dans ce rôle-là. Fait que lui, il a plus un rôle, je dirais, un petit peu administratif, qui va, avant les Jeux, là, la COVID, ils ont dû avoir des réunions jour et nuit pendant des mois, là, plus qu'un an. Mais fait qu'ils ont ce parti-là à gérer. Fait qu'ils ont décidé que ça ne serait pas nécessairement le médecin-chef des Jeux. Mmh. Fait que là, il y a lui qui s'appelle CMO, puis l'autre, je pense que c'est le médecin-chef, mais en tout cas, fait qu'il y a quelqu'un là, sur l'équipe médicale aux Jeux, il y a le médecin-chef, puis le thérapeute en chef. Okay? Fait qu'eux autres, ils organisent tout ça. Ensuite, tous les autres médecins ont de l'équipe de base qui est sélectionnée par l'Académie canadienne de médecine du sport, là, pour ce qui nous concerne. Les autres, c'est les associations de thérapeutes. Les autres, on est comme tous sur le même pied d'égalité. Mais c'est vrai qu'il y a une autre sorte de médecin au jeu. Il y a depuis à nous le podium en 2006 où il avait décidé que les équipes nationales pouvaient amener leurs médecins aux Jeux. Si on fait un petit peu l'historique, anciennement, les équipes amenaient leurs médecins. Puis, le médecin, c'était souvent le grand chum du directeur technique là, qui est urologue ou on ne sait pas quoi, mais on a un médecin avec l'équipe. Il y avait des gens qui étaient clairement pas qualifiée. Puis c'est comme ça un petit peu que CASM a commencé, là, l'Académie canadienne, disant ça n'a pas d'allure. Tu sais, il s'est passé, je pense que c'était à Mexico, là, qu'il y avait un gars qui est mort sur la piste, là, ou qui a failli mourir sur la piste. Pas un Canadien, là. Okay? Puis parce qu'il était en altitude, c'était pas prévu, il faisait chaud, puis tout ça. Puis c'était le champion du monde comme incontesté, là. Tu sais, tu te demandais toutes les courses qui va finir deuxième, là. Sur des courses de longue distance, puis il s'était comme effoiré sa piste, là. Je pense qu'il est peut-être pas mort, je suis pas sûre, mais en tout cas, ça a mal été, puis les Canadiens, les médecins canadiens, ils ont dit, ouais, mais là, tu sais, il faudrait qu'on aille des vrais médecins du sport quand on y va. Fait que là, ça a commencé comme ça. Fait qu'il y a eu une phase où il disait, faut avoir un diplôme CASM pour aller au jeu. Mais les sports disaient, ouais, mais tu sais, nous autres, on a un médecin avec nous autres qui est là toute l'année, puis là, on arrive au jeu, puis on a un qui est sélectionné, puis on connaît pas. C'est valide aussi. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que pour être médecin d'une équipe nationale, il faut que tu aies ton diplôme CASM. Fait que là, en même temps, au moins, là, tu sais, tout le monde, mais il y a des équipes qui trichent, puis on le sait.
On vous demandera pas qui.
On ne demandera pas de nom. C'est ça. Ça fait que là, maintenant, il y a des équipes qui arrivent au jeu avec leur médecin, mais pas toutes les équipes. Fait que ceux qui arrivent au jeu avec leur médecin, ben le médecin s'occupe de cette équipe-là. Ceux comme moi qui sont sélectionnés pour l'équipe nationale, pour l'équipe de base, ben nous autres, on s'occupe en fait des sports à risque, parce qu'il n'y a pas des médecins dans tous les sports, les sports à risque qui n'ont pas leur médecin. T'sais, exemple, là, à Tokyo, moi, je m'occupais du judo, du plongeon, du water polo, puis de la nage synchro. Natation artistique, il faut dire maintenant. Puis, c'est ça. Fait que moi, je m'occupais de ces sports-là. Il y en a qui s'occupaient de d'autres sports. Puis, on essaie de couvrir. Puis, en plus, on couvre la clinique. Tandis que les médecins qui viennent avec les équipes, eux autres, ils s'occupent seulement de leur équipe. Des fois, ils vont nous dépanner, là, comme j'avais demandé aux médecins de natation de couvrir une épreuve de plongeon parce que j'étais en même temps au judo. Puis c'est un petit peu compliqué d'être à deux places en même temps. Là. Faire deux choses, ça passe, mais il faut qu'ils soient à même place. Donc, c'est ça. Fait que des fois, ils vont nous donner un coup de main ou si la clinique, on ne vient pas à bout de couvrir toutes les heures, on va leur demander. Mais cette année, je ne pense pas qu'il y ait personne d'autre que nous autres qui ait fait de la clinique. Là. Fait qu'on sépare les heures de clinique en fonction des compétitions où on va couvrir, puis on fait tout ça.
Puis, diriez-vous, en fait, que ce rôle-là que vous avez tenu aux Jeux olympiques est différent de celui de d'autres compétitions d'envergure? Est-ce que c'est toujours un peu le même système ou façon de fonctionner ou il y a des endroits où c'est en fait complètement différent, là?
Non, c'est pas mal le même système, là, parce que les gens prennent l'expérience, on l'améliore. Fait qu'il y a des choses qui ont été changées à des Jeux, ben on l'amène à d'autres Jeux. Puis, c'est le principe de base, là, c'est mais quand on va aux Jeux paralympiques, je sais pas cette année, là, combien il y en avait, là, mais à Londres, j'étais pas allée sur l'équipe de base, j'étais allée avec l'équipe paracycliste. Puis, c'était la première fois aux Jeux para qu'il y avait un sport qui amenait leur médecin, là. OK? Puis, moi, c'était mes cinquièmes, là, Jeux para, mais les autres fois, j'étais sur l'équipe de base. Puis c'était la première fois qu'une équipe amenait son médecin. Là. Fait que ça se peut, là, le para a évolué, puis il y a de l'argent qui est rentré aussi au para, là, ce qui nuit pas. Là. Fait que c'est ça, là. Fait qu'il faudra demander à Philippe, là, c'est lui qui a pris ma place avec l'équipe cycliste. Là.
En fait, c'est le sujet de notre prochaine conférence, le 4 novembre. C'est ça. Simplement pour faire une annonce, là, si les gens sont intéressés, ça
va. Un peu de la date, là. C'est ça. Fait que c'est un peu le même système tout le temps, là, à plus ou moins grande échelle. Moi, quand il y a eu les Jeux du Canada à Sherbrooke, c'était moi qui étais le médecin-chef. Puis c'est le même principe que j'ai appliqué. Là. Ça fait des années que je faisais ça dans les autres compétitions. Il y en a des fois qui amenaient un système un petit peu différent, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais il y a une fois des Jeux, là, mais c'est pas un médecin du Québec qui était médecin-chef, là, qui avait essayé de tout faire autrement, puis ça n'a vraiment pas marché. Puis là, on lui a dit, ben moi, j'ai l'expérience des grands jeux. Là. Fait que j'ai dit, on peut essayer ça comme ça. Ça ne tentait pas trop, mais il ne l'a pas fait, mais ça a été moyen.
Encore là, on nommera pas de nom.
Non. On peut vous dire qu'il n'est pas québécois, fait que faites-vous en pas, il n'est pas dans la salle.
C'est parfait. Puis je voulais aussi vous entendre par rapport, vous avez parlé quelquefois de la clinique médicale au jeu. Qu'est-ce que vous voulez dire par clinique médicale? C'est une clinique qui est ouverte aux athlètes, au oui. personnel ou.
OK. Quand on va au jeu, on traite l'équipe canadienne. Ça veut dire les athlètes, les accompagnateurs, coachs. Tous ceux qui ont une carte d'accréditation du Canada, là. Fait que le staff, les gens de l'association canadienne, puis tout ça. Puis on a une clinique sur place avec médecins, physios et ou thérapeutes du sport. Et depuis quelques années, une bonne dizaine d'années, là, il y a des chiro aussi. D'habitude, il y a un chiro, à peu près deux massos. Puis au jeu cet été, je pense qu'on était cinq médecins, puis il y était une dizaine d'habitude, il y a à peu près le double de thérapeutes. Puis ça, c'est... non, il n'était pas tant que ça parce qu'il y avait beaucoup d'équipes qui avaient leur thérapeute avec eux autres, là, qui amenaient leur propre thérapeute. Fait que sur l'équipe de base, il y avait peut-être 6-7 thérapeutes. Là. Désolé, j'aurais pu regarder les chiffres, là, mais ça tourne autour de ces chiffres-là. Puis, on fait de la clinique comme une clinique de médecine sportive. Pour les gens qui ne sont pas les athlètes, on traite les blessures là, aiguës, actives. Là. Si tu as mal dans le dos depuis 10 ans, tu iras voir ton médecin après le jeu. Là, on peut donner des conseils comme ça. Puis les massos, c'est réservé pour les athlètes. Là, puis, mais maintenant, le staff le sait, là, mais quand il a commencé à avoir des massos, il y avait beaucoup de monde sur la liste d'attente. Là, fait qu'on traite. La clinique est ouverte de 7 le matin à 11 le soir. Et oui, ça fait des longues heures.
Oui, des longues heures. Là.
Oui, mais ce n'est pas les mêmes médecins. Je n'ai pas fait souvent le chiffre de 9 à 11 le soir. Là. Moi, je suis une matinale, fait que j'aimais mieux faire celui de 7 heures, puis les autres aiment ça se lever tard, fait que tout le monde était content. Là. Mais c'est ça, fait qu'on partage les heures de clinique pour qu'il y ait quelqu'un tout le temps. Ça arrive des fois, là, ça peut arriver qu'il y a une heure qu'il n'y a personne, là, mais il y a des thérapeutes sur place, puis on n'est jamais, ben, on peut être loin parce qu'on est tous sur des sites de compétition, là, mais il y a toujours moyen que quelqu'un apparaisse vite. Puis le médecin-chef, ben, je me mêle dans les appellations, là, mais le CMO en anglais, celui qui je disais qu'il avait un rôle plus administratif, il faisait des heures de clinique aussi. Ça fait que lui, il était moins loin. Il suivait Aviron parce que c'est son équipe à l'année, là. Mais le reste du temps, là, il était avec nous autres.
Là. Super. Sinon, vous avez parlé là, des massos, vous avez parlé des physios. J'imagine qu'il y a quand même une grande interdisciplinarité au sein de l'équipe médicale des GO. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels comme, supposons, des nutritionnistes, des kinésiologues qui sont là?
Il n'y a pas de kinésiologue. Ben, il peut en avoir avec les équipes, là. OK, parce que souvent, ils ont des préparateurs sportifs et tout ça, mais ça, c'est avec les équipes, avec les délégations. Mais sur l'équipe médicale de base, il y a effectivement une nutritionniste, elle n'est pas à la clinique, elle est disponible, là, on la voit, on la croise. Là. Elle a fait beaucoup de travail avant les Jeux pour s'assurer que ce qu'il va avoir à la cafétéria, là, c'est conforme, puis préparer à l'avance, savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Elle s'occupe de... On avait toujours une petite section avec... dans le village, je vais repartir ça du début. Un village, c'est grand, OK? Le village des Jeux, là, c'est très grand. Et puis, on est dans des bâtisses séparées. Puis, dans la bâtisse du Canada, il y a les bureaux, il y a la clinique médicale, il y a les chambres pour les athlètes. La clinique, d'habitude, c'est... dans un des appartements, mais au lieu d'avoir des athlètes qui couchent là, il y a la clinique, puis il y en a un autre qui sert de bureau pour le COC. Puis dans ce coin-là, qui est un peu l'accueil du COC, Il y avait des services aux athlètes, puis là, il y avait toujours une table là, avec des collations, des bars ou des trucs comme ça là, pour ceux qui s'en vont en compétition ou pour complémenter ce qu'il y a à la cafétéria. Mais les cafétérias des Jeux, là, c'est tout le temps. C'est difficile de ne pas trouver quelque chose là, à son goût, là.
On sent quand même que depuis tout à l'heure, vous mentionnez peut-être des petits événements où est-ce qu'il ne faudrait pas nommer la personne fautive ou quoi que ce soit. On sent que des fois, il y a sûrement des petites anecdotes ou peut-être des petites situations qui se passent. En avez-vous une qui vous vient en tête, que vous souhaitez nous partager sans mettre personne dans l'embarras?
Ben, des affaires comme ça, non. Si ça me revient, je vous dirai.
On peut se la garder pour la fin.
Il y avait une autre question que vous avez préparée, puis à laquelle j'ai pensé sur ça, là, c'était plus les anecdotes, mais c'est plus des événements qui arrivent au jeu, puis on fait quoi là, quand ça va mal à la shop, là. Bon, cette année, j'en ai eu juste un, ça va mal à la shop, là. C'est plongeon, puis ça ne mettra personne dans l'embarras, quelquefois. Plongeon, j'étais pas là, j'étais à la clinique, c'était un entraînement. Puis là, j'ai eu un coup de fil du thérapeute. Il y a un plongeur, si on met ça en termes comme moi de non-connaisseur en plongeon, qui a fait un flat. Non. Il a manqué son entrée à l'eau du 10 mètres, puis il paraît qu'il est arrivé beaucoup en hyperextension du dos, là. Il est parti par en arrière, il s'est perdu dans les airs, là. Puis ça devait être épeurant. J'ai pas vu la vidéo, mais le thérapeute, il m'a écrit que lui avait eu une blessure. On peut-tu te voir à la clinique? J'ai dit oui, je suis là à la clinique, là, parce que c'était moi le médecin de l'équipe. Ensuite, pas longtemps après, il y a eu un téléphone du team manager. Excusez pour les termes anglais, là, ça se passe pas mal même là-bas. Là. La gérante d'équipe qui a appelé à la clinique pour dire y a-t-il un moyen de transport? On a un athlète blessé quand il va arriver à l'autobus dans le débarcadère pour l'amener. Il doit avoir à peu près 800 mètres là, entre le débarcadère et notre bâtisse. Là, le coordonnateur clinique, il dit ben, il y a les navettes, là, il y a des espèces de minibus là, qui vont à la vitesse incroyable de 8 km/h avec des pointes à 10. Achalant, quand tu as ça en avant toi et tu es en vélo, ça va pas vite. Mais c'est ça. Fait que là, il me dit ça. Moi, je m'attends à voir quelqu'un qui arrive minimum en fauteuil roulant. On est deux, trois jours avant le début des compétitions. Là, il arrive sur ses deux pieds. Bon, ben, c'est déjà pas si pire. Il fonctionne. Il est conscient. Il marche. Il n'est pas paralysé. Puis là, je l'évalue. Oui, il a mal dans le dos. Mais comme je dis, ça devait être vraiment épeurant parce que le thérapeute était très, très nerveux lui aussi. Et pourtant, il a de l'expérience. Fait que là, je l'évalue. Puis je dis, bon, ben OK, on va voir. Mais il reste 2 jours avant la compétition. Puis il va-t-il être capable de plonger dans 2 jours début? Non, c'était que il restait le lendemain, le surlendemain. Au soir, il fallait qu'ils donnent l'équipe finale. Eux autres avaient amené un substitut parce qu'ils sont en voyage puis à l'entraînement avant. Puis là, il fallait qu'ils décident si c'était ce plongeur-là ou le substitut qui reprenait l'avion après-demain. Là, je dis, moi, je ne sais pas comment il va être demain. T'sais, c'est sûr que s'il était arrivé avec des gros symptômes neurologiques ou douleurs. Mais là, il avait mal dans le dos, là. On va voir. Là. Demain, il y a 2 options. Là. Ou bien il est mieux, ou bien il est pire, puis il est raide à mort. On va voir, puis on va attendre. Puis là, je pense une heure après, là, la délégation, non, quelqu'un de la mission canadienne vient me voir, puis là, il se passe quoi avec? Puis il y a toujours la question de confidentialité. Là. Il y a des affaires qui s'étirent jusqu'au coach, là. Puis elle a dit, ben là, la délégation, ils sont venus me voir, là, c'est la grosse panique, faut-tu qu'ils le retournent en avion, ça prend-tu un avion ambulance? Là, j'ai dit, wow! On se calme, on respire par l'année, hey, elle a dit, ils sont venus dans mon bureau, les larmes aux yeux, puis tout ça. Regarde, là, le gars, là, il a mal dans le dos. OK? Il a juste
Faites un
mal dans
plan.
le dos pour l'instant. Puis, tu sais, évidemment, je l'ai évalué, mais oui, il avait mal, mais c'était pas si pire que ça. Là, on va voir. Puis le lendemain, il en a fait un petit peu. Puis sur le lendemain, le thérapeute m'a envoyé le vidéo pendant l'entraînement. Il dit, regarde, ça donne ça. Bon, écoute, ça valait-tu un 8, un 8,5? Là, faut pas me le demander à moi, là, mais ça avait pas l'air d'un gars qui avait des gros problèmes, là. Fait que, tu sais, ils ont renvoyé l'autre, là. Fait que, il faut gérer les athlètes. Faut traiter les blessures. Ça, c'est un. Mais il faut prendre les décisions. Celle-là était facile, mais il faut gérer tout l'entourage puis le stress olympique de tout le monde. Puis là, des fois, il y a la famille qui embarque là-dedans. Fait que ça fait partie des affaires qu'il faut gérer. Ça, c'est une décision facile, mais des fois, s'il faut décider, est-ce que l'athlète, s'il avait été plus blessé, est-ce qu'il participe, est-ce qu'il participe pas? La ligne, là, à ne pas franchir, moi, je suis assez... inflexible sur la limite qu'il ne faut pas franchir, sauf que la limite, elle va tasser un peu pour les jeux. Mais il y a des affaires qu'on ne fait pas. Okay? Quelqu'un qui a une commotion, là, je l'ai déjà dit, c'était aux universiades, fait que c'est championnat du monde universitaire, une joueuse de soccer qui a une commotion, sa cinquième en passant. Puis là, elle veut jouer quand même. Là, j'ai dit, non, c'est plate, là, tu sais, on s'en va en demi-finale. Je sais que c'est plate, je comprends tout ça, mais le cerveau, ça ne guérit pas plus vite aux Olympiques, là, ou aux championnats du monde. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a toujours cette ligne-là, mais il faut être créatif, inventif pour essayer là, de maximiser les chances, trouver un moyen là, pour. Puis c'est pour ça que le travail d'équipe avec les thérapeutes est super important. Là. Tu sais, des fois, je vais les voir, puis je suis capable, je ne sais pas, moi, taper, immobiliser, faire un attel, quelque chose qui le tiendrait, qui empêcherait ça, puis peut-être qu'il pourrait participer. Mais il y a des affaires comme les commotions, c'est non négociable. Là. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Il y en a qui. Ben, ça, on a chacun notre limite comme ça. Moi, je trouve que j'adapte beaucoup avec les jeux. Puis, tu sais, si j'ai le papa à la clinique qui vient me voir, puis vu que son gars joue pareil, là, parce que c'est les finales double lettre, là, dans le atome, puis un pouce cassé, ça m'est déjà arrivé. Regarde, il jouera pas son match, là. Tu sais, mais si on est aux Olympiques, y a-tu moyen de faire une attelle, là? J'ai déjà fait pour une attelle pour un cycliste, un pilote de tandem, qui avait une fracture du troisième méta, qui s'est fait ça là, à l'entraînement sur une chute. Bien, on a fait faire une attelle. Là, je suis allée voir le médecin des Jeux, puis je dis, as-tu un orthésiste qui me ferait une attelle en thermomoulé qu'on pourrait mettre sur le guidon pour voir si ça marche? Mais lui, il est en vélodrome, en vélo de piste. Fait que tout ce qu'ils ont à faire, c'est tirer fort sur les guidons en partant, parce qu'ils sont comme attachés d'un bloc de départ. Puis après ça, ils ont les deux mains dans les drops comme contre la montre là, ou un triathlon. Oui. Mm-hmm. Là, un coup, t'expliquer à l'athlète que s'il retombe, ça peut faire mal, puis ça va faire mal, puis ça peut se déplacer. Puis t'expliques les risques, puis il comprend les risques. Ça, c'est acceptable. En vélo de montagne, je suis pas sûr que je l'aurais laissé partir, là. Ouais. Il aurait fallu qu'on soit sûr, là, que notre installation, elle bougerait pas, là. À la limite, le mettre dans le plâtre, puis s'il est capable de shifter comme ça, là. Mais, tu sais, c'est trop dépendant d'un à l'autre, là. Vélo de montagne, moi, ça serait posé. Lui, on a travaillé fort, là. On n'avait pas amené le guidon, il a pas pensé. Mais il y avait une marchette chez l'orthésiste. Fait qu'on a moulé autour de la marchette en se disant que c'était à peu près pareil comme le guidon. Ça a marché. Ils ont fait leur meilleur temps à vie, puis ils ont fini sixième. Fait que, ça fait un job, là. C'est ça qui est le but, là.
Ben ouais, tout à fait. Mais je voulais aussi vous demander, vous en avez glissé mot tout à l'heure, mais par rapport à la confidentialité, parce que, bon, les Jeux olympiques, il y a une notion aussi, oui, l'athlète, mais c'est aussi l'équipe, c'est la délégation. Et puis, vous-même, vous avez une responsabilité. Comment vous gérez la notion de confidentialité un peu à travers tout ça?
Et il y a les médias aussi.
Tout à fait, ouais.
Les médias aux Jeux, c'est facile. Là, tu dis, ah, c'est pas moi, il faut parler au médecin-chef. Quand tu es médecin-chef, là, c'est moins bon. Ça, je l'ai fait quelques fois, là, mais c'est ça. Il y a une entente de. Habituellement, là, dans la plupart des équipes, on parle de l'équipe médicale. Fait qu'entre nous autres, on partage l'information. OK? On va partager l'information à l'entraîneur qui est utile, OK, ou nécessaire de savoir. Son athlète, est-ce qu'il peut s'entraîner? Est-ce qu'il peut faire ça? C'est quoi les limites? Puis tout ça. Mais si l'athlète vient nous voir parce qu'il y a un problème autre, psychologique, une ITSS, qui n'a pas rapport, l'entraîneur n'est pas au courant. Là.
Ni les médias, j'imagine.
Ouais. Mais on va donner l'information qui est pertinente pour le sport. Là. Souvent, tantôt, je parlais de plongeon. Là, il faut qu'il décide si c'est lui ou l'autre. Dans les sports d'équipe, on a beaucoup ça. Là. Ou le sport en général, quand il y a un substitut, ça m'est arrivé là, dans différentes compétitions, différents niveaux. Mais là, moi, je ne sais pas. Là. Fait que, tu sais, je demande au coach, OK, lui, il a ces limitations-là. OK, il peut faire ça, il ne peut pas faire ça. Est-ce qu'avec lui à 80 % est-ce qu'il est meilleur que le remplaçant à 100 % Ça, le coach, il sait. Là. Des fois, il va dire non, l'autre est tellement loin. Mais des fois, quand les deux sont presque équivalents, ben, l'autre à 100 % va être meilleur que le suivant. Là. Tu sais, fait que ça, il faut en donner. C'est important de communiquer avec les coachs. Quand on suit des équipes, là, comme je faisais avec athlétisme et cycliste là, à l'année longue, là, on connaît les coachs. Puis, c'est ça. Il y a des affaires qui restent confidentielles, qui vont toujours rester confidentielles. Mais quand c'est directement en lien avec l'entraînement ou, tu sais, qu'il faut gérer là, le risque de blessure, puis il faut aider le coach aussi à aider l'athlète à ne pas aller trop loin puis à limiter. Là, que c'est ça. Ce qui est au niveau du staff, le reste, là, les gérants puis tout ça, beaucoup moins. Ça, le coach peut dire ce qu'il veut avec eux autres. Là. Mais là, c'est juste, je prends l'exemple du plongeon, c'est juste de leur dire, regarde, on se calme, on va voir demain, puis on verra. Là. Des fois, il faut les ramasser un peu après. T'sais, si je dis il peut pas, là, parce que ouais. Puis que l'autre est pas mal moins bon, puis que tout le monde est sa déprime, puis tout le monde pleure, bon, ben on va faire un petit meeting, on va les rencontrer un par un, puis on va faire de la palmothérapie. Là. La palmothérapie, ceux qui ne savent pas, c'est ça.
C'est pas dans notre attirail.
Non, j'ai appris ça en médecine de famille, pareil.
Ah non, le toucher empathique, mais sportif.
La palmothérapie. Puis sinon, si on change un peu de registre, comment la COVID a influencé le déroulement des Jeux à Tokyo? Vous avez parlé, vous avez fait Sud 2006 à Turin. Est-ce qu'il y avait des grandes différences en termes de staff, en termes, bon, les spectateurs aussi? C'est quoi les limitations dues à la COVID?
OK. Termes de spectateurs, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était des connaisseurs parce qu'il y avait juste les athlètes, les coachs, puis les membres de l'équipe. Là. Et en plongeon, là, quand tout le monde faisait waouh, là, je disais, ah, ça devait être bon, celui-là. Non, mais je voyais les très bons, les moyens, mais les subtilités. Là, regarde, c'est la première fois que je travaillais au plongeon. Là. Mais tu sais, on ne peut pas comparer la grosseur des Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Okay? En partant, les Jeux d'hiver, olympique, c'est moins gros que les paralympiques d'été.
OK.
Il y a moins de pays, il y a moins de sports, beaucoup moins, mais il y a plus de couverture médiatique. Ça, c'est le problème des paralympiques, mais ça s'en vient, là, aux paras, ils commencent à en avoir plus. Là. Fait que moi, j'ai fait 5 paras l'été, là, OK? Puis, les stades, mettons, j'étais beaucoup avec athlétisme, puis surtout athlétisme longtemps, là, mais le stade, il était plein, là. Fait que, il était aussi plein aux Jeux paralympiques qu'aux Olympiques. Là. Fait que, s'il y a 65 000 places, il y a 65 000 personnes. Là. Tandis que à Tokyo, il n'y avait pas ça. Là. Fait que, ça, il y avait moins. La grosse différence, à part les spectateurs, c'est dans le village même. Parce que Les athlètes pouvaient pas arriver plus que 5 jours avant le début de leur sport, puis ils étaient obligés d'être dans l'avion le lendemain qu'ils avaient fini.
Quand même.
Fait que d'habitude, à la clinique, on était moins occupés que d'habitude, parce que d'habitude, tu sais, ils ont fini, puis là, on continue à traiter les blessures, puis des fois, ils sont pas venus avant parce qu'ils voulaient pas le dire, puis ils avaient peur qu'on les arrête, mais à tort habituellement. C'est ça, fait que tu sais, on continue à traiter. Là, c'était pouf, plus personne. Cérémonie de clôture, c'était assez tranquille là, les derniers jours. Là. Ça, c'était la grosse, grosse différence, là, les gens dans le village. Là. Il y a eu une petite période au milieu là, qu'il y avait plus de monde parce qu'il y avait des sports de commencer puis pas fini, puis d'autres qui arrivaient. Là. Mais c'était beaucoup plus tranquille que d'habitude. Bon, c'est sûr que le test de COVID à tous les jours, c'est différent des autres jeux.
En espérant
quand
que ça
c'était ça l'hiver, là, on était champion pour baver dans la petite éprouvette, là, après 27 fois en ligne.
Oh, wow! Ouais, puis,
on ne pouvait pas aller voir les autres sports non plus. Là. Ça, ça faisait une différence, ce qui fait qu'il y avait encore moins de spectateurs parce que à chaque jeu, dans les estrades, il y a une section réservée aux athlètes qui ne sont pas en compétition. Fait qu'un athlète, mettons, un jeu d'été, de plongeon, peut décider d'aller voir du judo. Mais là, il ne pouvait même pas embarquer dans l'autobus de judo. Mmh. Et, fait que plongeon, natation, nage synchro, eux autres, ils trichaient un peu parce qu'ils étaient tous dans la même piscine. Okay? Fait qu'il y avait déjà, ils pouvaient prendre cet autobus-là pour aller à la piscine puis voir l'autre. Mais natation, il était dans les premières semaines, puis en même temps que moi, j'étais au judo. Quand j'étais arrivée au plongeon, natation, c'était fini. Là, tout le monde était parti. Fait que c'est des grosses, grosses gangs, ça, là, qui parlaient de natation au début, puis athlétisme après. Ça, c'est les deux grosses gangs. Là. Fait que la grosse différence là, était là sur le nombre de personnes. Puis évidemment, les estrades. Là. Tu sais, judo, au Japon, judo, là, c'est le sport national. Puis l'amphithéâtre où il y avait le judo, c'est un amphithéâtre qui est bâti un peu comme le Centre Bell, avec les tatamis au milieu. Là. Il y en a deux, puis pendant la finale, il y en a juste un. Là. Ça contient 14 500 personnes, je pense, qu'il y a de la place. Là. Mmh. Et c'est immense. Puis déjà, c'était bruyant avec juste la petite gang qu'il y avait là, puis les bénévoles qui criaient fort. D'ailleurs, j'ai évalué qu'à peu près 80 % des bénévoles masculins au judo avaient les oreilles en chou-fleur. Okay. Ils regardaient plus le judo que vérifier que les gens avaient leur masque dans les estrades. Là, mais c'est ça. Mais fait, t'sais, j'imaginais là, là-dedans, ça faisait du bruit où on était parce que tout le monde criait fort. Là. Mais si on avait été 14 000 là, dans cette enceinte-là là, qui est complètement fermée, là, ça aurait été... Wow! C'était ça, là, les gros. Puis on pouvait pas sortir du village. Et d'habitude, au jeu, on n'a pas le temps de visiter tellement, mais des fois, on a une heure ou deux. D'habitude, moi, j'amène mon vélo au jeu. Puis si j'ai une heure, je vais aller rouler autour. Puis en même temps, on peut voir un peu ce qui se passe, tandis que là, c'est les villages, puis autobus water polo, autobus plongeon. Puis je connais, puis water polo, plongeon, c'est dans le même enceinte, mais deux bâtisses séparées, puis judo. Ça fait que Tokyo, là, je connais ces deux petits bouts-là, là, ces deux trails-là. Là, c'est ça. Fait que ça, c'était dommage. Mais quand même, tu sais, t'as les bénévoles qui sont là. Il y a toujours dans les jeux, tu vois, les gens locaux, c'est les bénévoles là, que tu vas voir le plus. Là. Puis tout le monde se fait en quatre pour te rendre service tout le temps. Là. C'est super le fun. Puis mon japonais, ben, il n'est pas tellement meilleur qu'il était. Là. J'apprends au moins un nouveau mot. Là.
Ben, c'est déjà bien. Hein? Le temps file, là, c'est vraiment intéressant. Puis merci beaucoup pour toutes les anecdotes et le contenu que vous amenez. On se demandait peut-être une dernière question avant de passer aux questions de nos auditeurs. C'est quoi la préparation, justement, en vue des JO? Est-ce que vous faites quelque chose, si on veut, de spécifique, bien connaître vos athlètes, peut-être connaître les spécificités de certains sports? Comment vous vous appelez?
Bien, ça, on le fait plus en arrivant là-bas. Des fois, souvent, on va avoir des sports qu'on connaît déjà. Le judo, je l'avais déjà couvert dans différents jeux. plongeon, non. On a quand même une idée, puis on va s'informer c'est quoi les blessures les plus fréquentes dans ce sport-là. Water polo, je l'avais déjà couvert aux Universiades, ben, qui avait synchro, mais synchro, c'était pas supposé couvrir sur place, c'était juste clinique. Puis avant les Jeux, il faut faire la revue des médicaments des athlètes, ils nous assignent 4-5 équipes là, pour être sûr que personne va se retrouver avec du dopage inopiné ou qu'il n'y a pas d'autorisation d'usage thérapeutique quand il y en aurait besoin d'une. Mais le sport, mais c'est, comme tu dis, c'est super important de connaître le sport. Le judo, j'avais passé une heure en Zoom avec la thérapeute parce qu'il avait dit qu'au jeu, d'habitude, c'est la thérapeute qui est sur le bord du terrain, puis qui avait dit qu'au jeu, ce serait juste les médecins. Fait que là, le directeur haute performance, Nicolas Gill, pour ne pas le nommer, il capotait, là, puis... mais finalement, il y a eu une passe-passe, là, parce que sa carte à elle, c'était pas marqué physio, c'était marqué medical personal. Fait que là, on l'essaye. Mais moi, je m'étais préparée avant, là. Tu sais, j'ai dit, c'est quoi les affaires? Puis c'est 5 mois de nez, c'est parce que c'est un temps limité pour le faire. Puis il y a des trucs, là, comme en judo, sont un peu intenses, là. Si ça, c'est parce que si tu t'arrêtes la compétition deux fois, tu as droit à deux fois. Mettons, saignement de nez dans la même compétition, s'il revient parce qu'il saigne encore, parce qu'il a un gros nez puis tes plugs n'étaient pas assez grosses, là, ça coule pareil, il arrête encore, mais s'il arrête une troisième fois, il est éliminé, là. Fait qu'ils veulent pas que tu sois qu'il soit éliminé à cause du docteur. Fait qu'eux autres, là, ils font un pactage, puis là, ils leur tapent ça autour de la tête comme ça, pour le tenir, puis ça dit, oh, oh, oui, il y en a des capables, là. Fait qu'elle m'a donné... 3-4 trucs, là, que c'est ça qu'on... Fait que c'est ça, c'est important de connaître les sports, savoir c'est quoi les blessures. Bon, ça, je savais que ça saignait, puis je savais qu'on n'avait pas beaucoup de temps, là, mais c'est ça, là. Fait qu'il y a des petits trucs comme ça, c'est bon de le savoir à l'avance. Ou sinon, on arrive au jeu, puis on a comme une semaine avant que ça commence, là. Plus on les connaît, mieux c'est. Puis connaître les règles, super important. Tu sais, si tu vas en vélo de montagne, puis que t'aides l'athlète, il est éliminé. Tu vas en vélo de route, tu peux le rembarquer sur son vélo, tu peux pousser le vélo, puis c'est correct. Fait qu'il faut que tu demandes avant de toucher.
Toujours demander.
Toujours.
Bon, définitivement, beaucoup de choses qu'on a couvertes, puis beaucoup de choses qui resteraient à discuter. Je prendrais peut-être juste un petit instant pour voir si on n'a pas des questions de nos auditeurs de ce soir dans le chat.
Si vous voulez prendre le micro et poser vous-même la question à Dr. Labrec, là, sentez-vous bien à l'aise?
Parce que sinon, nous, on en a d'autres en banque.
Faut y réfléchir. Sinon, question comme ça, Dr. Labrec, vous êtes rendu à 2 Jeux olympiques, plusieurs paralympiques. Avez-vous l'intention de poursuivre votre implication et de répéter l'expérience dans le futur?
C'est une bonne question. Je m'étais dit que Tokyo, ben ça c'était avant la pandémie, là, que ça serait possiblement mes derniers Jeux. Là, vu que c'était pas des Jeux standards, ça risque d'être quand même à avoir été mes derniers Jeux, là, mais je sais pas, là, tu sais, j'ai quand même 5 paras, puis 2 Olympiques, plus les Panames, les Commonwealth, puis tout ça, là. J'en ai fait de toutes les sortes. Olympique, c'était le seul jeu d'été que j'avais pas fait, là. Fait que, là, j'ai la panoplie complète pour les Jeux d'été, là. Je vise pas ça pour les Jeux d'hiver.
Mais j'en doute pas, vous allez continuer à graviter autour
du monde ça, sportif, c'est
les compétitions locales, régionales, etc.
Oh oui, parce que je fais beaucoup avec le patin de vitesse parce qu'il y a des grosses compétitions à Sherbrooke, là, élite, puis championnat canadien, puis tout ça. Puis le niveau est très, très fort. Là. Si tu prends les finales des compétitions élites en patin de vitesse courte piste, c'est plus fort que les 8e de finale au championnat du monde. Là. Oh, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'athlètes de très haut niveau. Là. Tu sais, il en envoie 4-5 en compétition, mais t'en as 10 autres qui sont pas tellement loin en arrière, alors que d'autres pays, il en envoie 4 qui sont les 4 seuls au pays qui patinent.
On a une petite question dans le chat. Alors, c'est Samuel qui demande en fait une question un peu plus d'ordre général. se demande en quoi consiste le quotidien de médecins du sport, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont quand même dans les hôpitaux à l'occasion, dans les GMF?
Okay.
C'est quoi la grande partie de la pratique? Là, puis,
ouais. Pour ceux qui commencent, là, essayez pas de faire la médecine du sport à temps plein. C'est vraiment ma recommandation. Il faut faire de la médecine de famille parce qu'on a besoin en médecine du sport. Okay? Quand on va au jeu, là, à la clinique, on ne traite pas juste des entorses et des fractures compliquées. Là. On voit on voit plus de rhume avec toutes les mesures sanitaires. Là. Et ton athlète, il peut faire une crise d'asthme, il peut être diabétique. Fait que ça n'en prend. Puis si vous vous lancez tout de suite juste là-dedans, vous risquez de perdre beaucoup d'habileté. Là. La plupart font de la médecine sportive une journée par semaine ou deux jours ou quelque chose comme ça. Puis ça, je trouve que c'est un bel équilibre. Là. Moi, pendant 12 ans, j'étais au CLSC. Je travaillais 3 jours par semaine en CLSC puis une journée en médecine sportive. Puis je couvrais des événements les fins de semaine puis tout ça. Puis après ça, puis quand j'ai arrêté CLSC, je m'étais donné comme défi de rester à jour dans tout le reste, là, ce qui est plus difficile parce que tu n'en vois pas au quotidien, mais je suis encore pas mal à date là, dans les affaires, mettons, médecine interne. Là. J'ai abandonné la néonate puis la gériatrie, là, choisir ses batailles. Là,
absolument.
Mais, fait que le quotidien, c'est ça, là, c'est une pratique mixte. Quelques demi-journées, journées, là, puis en médecine sportive, puis le reste en médecine de famille, là, pour ceux qui sont résidents en médecine de famille. Là.
Excellent.
C'est une excellente question aussi.
Je pense que ça répond.
Oui, ouais. Excellente question, effectivement.
Puis pour faire du pouce avec la question de Samuel, là, vous dites qu'il faut être prêt à traiter là, un peu n'importe quelle pathologie, même quand on va aux Jeux olympiques. Pourriez-vous décrire un peu, là, c'est quoi que vous traînez comme équipement médical ou avez-vous une trousse que vous amenez sur les lignes de terrain pour être prêt à traiter ces genres de conditions que vous avez listées un peu plus tôt?
OK. Ben, ce qu'on amène au jeu, là, pour l'équipe médicale, c'est un container. On n'y ira pas. On a un peu de tout ce que tu peux penser, là. En quantité pour des traitements, tu sais, 7-8 sortes d'antibiotiques, anti-inflammatoires, bon, tout ça. Ça, c'est à la clinique des Jeux, OK? D'habitude, il y a une polyclinique organisée par le comité organisateur, fait qu'on a déjà la liste des médicaments. Mais sur les lignes de côté, moi, quand je fais, bon, je couvre n'importe quel sport, c'est sûr qu'il va y avoir les blessures de sport, puis ça dépend si tu es un thérapeute du sport ou pas. OK, avec toi. Fait que si un thérapeute du sport, le taping, toutes ces affaires-là, il va toutes les avoir, les gaz. Mais il y a les trucs de base, les kits pour l'examen. Mais moi, j'ai un kit à point. Ça dépend on est où, là. Quand je voyageais avec les équipes, des fois, tu vas dans des pays, c'est pas fort, mais j'avais un kit à point avec moi pour les enlever. Bon, tu as les affaires d'urgence, le nitro, du glucose, les pompes pour l'asthme, ces trucs-là. J'ai même un kit à cricot que j'ai jamais utilisé, mais que je sais utiliser. Ah, les combitubes ou les kings ou peu importe la sorte, là. Ça, je l'ai dans ma trousse sur le bord du terrain. Mais tu sais, si t'es en ville, je suis au patin de vitesse, je vais pas faire une cricot à personne. Là. Il va partir en ambulance, là, c'est sûr. Là. Mais c'est ça, là. Fait qu'il faut, c'est pas tout d'avoir des choses. Faut que tu saches qu'est-ce qu'il y a dans ta trousse. Faut que tu saches son où dans ta trousse quand t'en as besoin. Puis il faut que tu saches les utiliser, là. Il y avait une autre question, je pense.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Puis c'est pas le temps de commencer à essayer d'utiliser du nouveau matériel et de déballer du stock, là, sur le terrain.
Pratiquer avant.
Exact, exact. Patricia, voulais-tu prendre le micro et poser ta question?
Oui, vous m'entendez?
Oui.
Oui, ben en fait, je pense que ça continue un peu sur la question qu'on avait déjà entrepris, mais moi je me demandais, surtout dans des gros événements comme les Jeux olympiques, là, t'sais, où est la limite de prise en charge des blessures? T'sais, est-ce que on fait de la réanimation sur le bord du terrain ou où se limite, dans le fond, le rôle du médecin du sport sur le terrain?
OK. Bien, l'organisation, c'est une excellente question parce que je vais déborder un peu. L'organisation a toujours leur staff médical. OK? Fait que ça, quand tu es rendu à réanimation, ils vont embarquer. Nous autres, on a un défibrillateur à clinique. Là. On l'a déjà traîné, ces sites de compétition. Ça dépend du médecin-chef, là, mais je trouvais ça un petit peu excessif. Mais il y a des fois, tu sais pas s'il y en a. La première chose que ces jeux-là, la première chose qu'on fait, c'est on va à clinique. Tu sais, chaque sport va avoir une petite clinique médicale. Tu vas voir qu'est-ce qu'ils ont. Tu t'assures qu'ils ont une planche, qu'ils ont un défibrillateur, qu'ils ont de l'oxygène, puis tout ça. En théorie, on n'a jamais le droit d'embarquer la plupart du temps sur le site. OK? Ça, c'est la théorie des jeux. L'approche canadienne, puis probablement de la plupart des pays, c'est on ne laisse pas personne toucher nos athlètes. OK? Parce que tu ne sais pas la qualité, la formation, le personnel. Tu peux être dans un pays très évolué au niveau du sport, mais le médecin qui est bénévole au jeu, c'est peut-être pas le king en médecine du sport. OK? Fait que ce qu'on fait, moi, je trouve super important, puis j'aurais dû en parler avant, je trouve toujours une place où je peux embarquer, où je peux avoir accès. Bon, on exclut les piscines, là. Tu sais, c'est pas moi qui vais sortir de l'eau, puis il y a des lifeguards sur le bord, là. On avait d'ailleurs une image comique, là. Si vous pensez que vous vous sentez inutile, c'est un lifeguard d'une compétition de natation au jeu de Tokyo qui est à côté sur sa bouée comme ça, là. Mais à part la piscine, là, OK, piste d'athlétisme, c'est déjà arrivé en para, mes premiers jeux. Méga crash en fauteuil roulant, là, il y a 11 gars, puis fauteuil dans le crash, dans une espèce de pile, puis là, t'essayes à tout.
Ah, on vous a perdu.
On ne vous entend plus, Dr. Labrec, à moins que ce soit moi.
Si votre micro est éteint.
Le micro, c'est...
Ah, voilà. Excusez. C'est parfait.
Fait que c'est ça. Fait qu'il faut que tu aies un accès sur la piste. Tu trouves un accès, tu trouves une place, tu fais ton plan. Bien, avant, tu vas demander, est-ce que je peux avoir accès? Là, ils disent non. S'ils disent oui, la vie est belle, tu demandes, tu choisis. Là. Mais s'ils disent non, tu trouves une place où tu vas avoir un accès facile à la piste. Puis, il arrive quelque chose de majeur. Là. Tu y vas pas à chaque fois qu'il y a une petite entorse puis qu'il sort en marchant. Là. Mais s'il y a un cas majeur, tu y vas. C'est toujours la panique dans ces grosses affaires-là. Là. Tu sais, quand il y a un gros incident, c'est la panique. Personne ne sait quoi faire sur le bord. Fait que toi, tu sais quoi faire, ils vont te laisser faire. Mm-hmm. Okay? Fait que t'embarques sur le tas, puis tu fais ta job. Puis ça, à Barcelone, là, il y avait eu un gros crash avec 11 fauteuils, puis bras, puis multiplié par deux. Puis les jambes étaient pas mal attachées. Ça, c'est pas grave, c'était attaché à tes fauteuils. Là. Mais... Puis là, je suis rentrée, personne ne savait quoi faire. Moi, je cherchais l'athlète canadien. Là. Et là, à un moment donné, il y a un gars de sécurité, ça a été long. Là. J'avais eu le temps de parler à cet athlète-là, puis chercher mon deuxième. Puis c'était à Barcelone. Il me dit que je n'ai pas d'affaires là, en espagnol, j'ai deviné. Là. Puis là, j'ai dit tout mon espagnol. Là. J'ai dit Médico-Canada, là, il était tout content, quelqu'un savait quoi faire. Mais tu sais, je me dis, s'ils me disent que je n'avais pas le droit d'y aller, je vais m'excuser, je vais dire c'est correct, je ne le ferai plus. Tu sais, les chances que tu as besoin d'y aller deux fois dans un jeu, là, mais ça, il faut être les premiers rendus là-dessus. Mais la suite, les affaires majeures, ils vont aller dans l'ambulance, tu t'arranges pour suivre avec. Il faut avant, quand on arrive au jeu, on sait toujours c'est quel hôpital qu'ils vont aller, à partir de quelle place, avec quel moyen de transport. Et ça, c'est toujours à planifier là, à l'avance. Là. Ils s'en vont où, ils les amènent à quel hôpital, parce qu'on ne peut pas toujours embarquer dans l'ambulance. Là. Nous autres, on va avoir un transport pour aller les rejoindre. Donc, excellente question.
Ah, mais merci beaucoup. Ça donne un petit avant-goût. Là. Ça donne envie.
Docteur Labrec, merci, franchement, pour cette belle soirée, pour toutes ces réponses. Je pense que les gens sont très contents de tout ça. Puis c'est pas des sujets qu'on a souvent. Puis franchement, bon. Bravo pour votre parcours.
Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup pour vos réponses généreuses. C'était fort intéressant pour des jeunots comme nous qui débutons notre pratique dans un futur proche. Okay.
Merci pour l'invitation.
Puis en fait, comme on a un peu abordé tout à l'heure, là, notre prochaine conférence de jeudi prochain, le 4 novembre, va être sur les Jeux paralympiques. Donc, à ne pas manquer dès 19h, ça aura à peu près le même format pour tout le monde. Puis finalement, on a aussi un petit message. N'hésitez pas à vous abonner à la QMSE parce que en fait, là, on fait souvent des conférences, il y a beaucoup de formations. Donc, c'est vraiment un abonnement qui vaut la peine.
Là. Absolument. faut que tout le monde soit abonné à la QMSE.
Puis on espère que vous avez apprécié. Là. Donc, merci. Merci encore.
Merci beaucoup.
Merci, Dr. Labrecque. Bonne fin de soirée.
Merci.
Salut tout le monde.
Bye.